Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui me donne le plaisir d'accueillir sur notre antenne un auteur de talent, Jacques Mistral, bonjour.
Bonjour.
Qui vient d'être récompensé, en tout cas en fin d'année dernière, par le prix de l'économie pour un ouvrage qui porte comme titre « La troisième révolution américaine » et qui est paru chez Perrin. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous présenter. J'ai dit tout à l'heure que vous êtes un auteur de talent. Je pense d'ailleurs que vous n'êtes pas à votre premier essai en la matière. Bon. Mais vous êtes aussi un économiste distingué. Vous occupez à la fois des fonctions au niveau du Conseil d'analyste économique, du Cercle des économistes, et vous êtes chroniqueur à Radio Classique. Et vous avez été nommé président en fin d'année. Et rappelez-nous exactement votre titre.
Président de la Société d'économie politique.
D'accord.
Qui en société en savante, mots, fondée par les héritiers de Jean-Baptiste C. en 1842.
Voilà. Donc, effectivement, ça nous
raccroche
à votre histoire. Quelques éléments aussi de votre brillant parcours. Je rappelle que vous êtes polytechnicien, vous êtes professeur agrégé et docteur en sciences économiques et vous avez été le conseiller économique du Premier ministre Michel Rocard, de même que conseiller spécial du ministre des Finances Laurent Fabius, puis conseiller financier à l'ambassade de France à Washington. Et vous êtes aujourd'hui directeur des études économiques à l'IFRI. Je pense que j'ai été complet. N'ai rien oublié pour l'instant. Je voudrais qu'on revienne immédiatement dans le vif du sujet pour donc revoir les thèses que vous développez dans votre livre. Et vous commencez, je pense que c'est par là qu'on peut commencer, en disant dans l'introduction que vous êtes un grand ami de l'Amérique. Alors, un grand ami à plus d'un titre, parce que vous avez passé un certain nombre de mois, voire même d'années, je ne sais plus.
Oui, j'ai vécu plus de 5 ans aux États-Unis, à Washington et ensuite à Cambridge, à proximité de Boston. C'est arrivé à un stade assez avancé de ma vie et de ma vie professionnelle. Mais depuis très longtemps, j'avais envie de vivre là-bas pour comprendre tout ce qui nous rapproche de l'Amérique et en même temps tout ce qui nous en sépare. Et donc j'avais voyagé aux États-Unis à très nombreuses reprises, dans le monde universitaire, un peu dans le monde politique, dans le monde de l'entreprise aussi, puisque j'ai travaillé pendant 8 ans chez AXA et que nous avions une très grosse filiale à New York. Donc j'ai eu des occasions nombreuses de voyager pour de courtes périodes. Et arrivant à la cinquantaine, j'ai eu envie d'investir plus longuement. Et nous avons donc eu une opportunité, ma femme et moi, d'habiter à Washington dans ces fonctions très, très intéressantes, puisque financier à Washington, c'est le correspondant du ministre des Finances. Je suis arrivé la semaine qui a précédé les attaques terroristes de 9/11. C'était quelques mois avant les scandales de Enron, WorldCom et compagnie. Et j'ai vu le développement de toute l'actualité économique et politique sous les deux mandats Bush.
C'est ce que nous allons donc voir plus en détail. Je vous cite parce que, effectivement, je précise à nos auditeurs que vous avez une plume particulièrement souple, aérée et intéressante. Et je vous cite en page 13 de votre ouvrage. Quand on parle en France de l'Amérique, il vaut mieux mettre d'entrée de jeu les cartes sur la table. Je suis un ami de l'Amérique, ce qui, comme on le verra, n'empêche pas l'esprit critique. C'est d'ailleurs naturel car ses erreurs sont, comme ses succès, à la mesure du pays, démesurées. Alors, je crois que ça nous donne le facteur d'ambiance.
Oui.
Vous dites 3 révolutions, la 3e révolution américaine. D'un mot, les 2 premières, qu'est-ce que vous en dites ?
On peut le dire très très brièvement parce que, et on peut, si vous le souhaitez, le développer beaucoup plus longuement, mais très rapidement, c'est de dire que l'Amérique n'est pas du tout un pays homogène au fil de l'histoire. C'est pas du tout conforme à l'image que nous en avons eue avec les 2 présidences Bush. L'Amérique ne se réduit évidemment pas à cette partie de son histoire. La première révolution, c'est celle de Roosevelt en 1933, enfin l'élection en 32 et l'installation en 33, qui a ouvert une période dans laquelle ce sont plutôt les idées démocrates qui ont d'abord marqué le New Deal, puis ensuite les droits civiques dans les années 60. Et après ces 30 années, 35 années, eh bien, il y a eu une seconde révolution, celle de Ronald Reagan, qui a cherché à revenir en arrière, à aller dans une autre direction, à aller de l'avant dans une autre direction. Et cette seconde révolution, qui a duré 25 ans, s'est achevée dans les deux mandats du président Bush, avec la conclusion à laquelle on arrive maintenant.
D'accord. Et vous avez, il faut le préciser, écrit votre ouvrage avant que la conclusion des élections américaines.
Bien avant, oui.
Ce qui permet de dire au passage que vous avez fait paraître tout récemment une version, on va dire, actualisée sous forme de format de poche de ce que vous avez écrit en version classique. Donc en début d'année 2008,
début 2008, oui. Voilà. Donc ce sont des matériaux en fait que j'ai accumulés pendant ces 5 années là-bas. Donc il y a un travail de recherche très très approfondi, un travail aussi vivant. Je vous remercie pour ce que vous avez dit sur le style, mais ça reflète simplement le fait que j'ai aimé découvrir ce pays, me promener, faire des rencontres un peu au hasard de tous les circuits que j'ai fait dans les parcs nationaux, sur les routes et dans les villages. Et ce livre a été écrit effectivement au premier semestre de 2008. Il ne portait donc pas sur les élections proprement dites. On trouve très peu de choses sur la rivalité entre Hillary Clinton et Barack Obama, par exemple dans les primaires, ou ensuite sur la campagne. Dans la version actualisée que vous évoquez, maintenant qu'on a le résultat des élections, ce qui confirme la thèse centrale du livre, et en particulier la façon dont John McCain, à la fin, au moment de sa défaite, a salué son vainqueur. Moi, j'ai beaucoup apprécié, comme les Américains en général, d'ailleurs, le discours de John McCain, qui d'abord a rendu hommage à celui qui était son adversaire et qui est devenu son président. Mais ça, c'est le style américain traditionnel. Mais il a ajouté à cela, il a dit « Je comprends aussi tous ceux qui ont porté leur voix vers mon concurrent parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils étaient désormais absents du rêve américain. » Et c'est exactement la thèse que j'avais développée plusieurs mois auparavant sur la base d'analyses sociologiques, politiques et économiques.
Oui, tout à fait. Alors, vous avez divisé votre ouvrage en deux grandes parties. Et vous commencez par, dans l'introduction, par une note optimiste en disant « L'Amérique nous surprendra encore ». On reprendra ça d'ailleurs en fin d'interview. Mais vous insistez sur le déclin et la chute du président Bush, la fuite en avant dans l'endettement. Peut-être un mot sur ce passage, les oppositions des théories monétaires entre Greenspan et Keynes. Un mot au passage.
Ça, c'est quelque chose qui pourrait être très longuement développé.
Bien sûr,
en fait, c'était mon métier à Washington, suivre les aspects financiers qui n'occupent dans le livre qui occupent une vraie partie importante, mais qui sont loin d'être le seul élément. Il se trouve que pendant plusieurs années, mon travail consistait à rapporter ce que j'entendais dire de la part de mes interlocuteurs, des membres de l'administration, du Congrès, des chefs économistes des grandes banques. Et je résumais cela en disant tout va bien. Ce qu'on me dit, c'est que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci à se faire, peu d'inflation, les déficits sont gérés, etc. Et moi, après ce compte-rendu, je disais, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, je persiste à croire que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que tout ça va se terminer en catastrophe. Et donc, le jour où, en août 2007, et je l'avais écrit donc dans un article antérieur au livre, qui s'appelait déjà « La fuite en avant dans l'endettement ». Donc, en août 2007, lorsque les choses ont commencé à se déclencher sérieusement, bien, ma foi, j'avais qu'à prendre le fil directeur que j'avais en tête. Ce qui a été nouveau, ce sont les détails de cette crise financière, mais son déroulement était assez clair.
Donc une sorte de perte de repère de la sphère financière, en quelque sorte. Mais ce que vous dites dans une troisième partie est encore plus, on dirait, profond. Le rêve américain est bréché. C'est le titre de votre oncle. Des inégalités croissantes, le chômage, etc. Ça, c'est que vous l'avez vu aussi lentement.
Ça, c'est un
apparaître.
Aspect qui m'a beaucoup frappé justement au fil de mes traversées des grandes villes, des faubourgs, des villages, des coins un peu perdus du Vermont, du Nouveau-Mexique ou d'ailleurs. J'ai progressivement été frappé de ce que l'image qu'on donne dans les rapports de l'OCDE ou du Fonds monétaire ou dans la rhétorique de l'administration Bush, l'image l'image d'une économie super productive, avec que des nouvelles technologies, des gens super qualifiés, super bien payés, ça ne correspondait pas du tout à la réalité médiane, je dirais, de l'Amérique. C'est-à-dire la médiane, au sens des statisticiens, c'est-à-dire 50% des gens qui sont au-dessus, 50% en dessous. Et ce qu'on observe, c'est que si on s'intéresse à la médiane, la médiane, elle n'est pas du tout conforme à ce modèle ultra-productiviste, ultra-moderniste et ultra-riche. C'est une Amérique qui est souvent pauvre, qui vit dans des situations économiques et sociales très fragiles, avec une absence d'assurance maladie. Donc j'ai cherché à mettre en relation cette perception vivante de ce que je découvrais, et puis les travaux statistiques, économiques, économétriques auxquels j'avais accès. Et j'ai trouvé qu'en étant un peu curieux, en acceptant de se placer en dehors du courant directeur de l'analyse économique et de la rhétorique politique, eh bien on découvrait qu'effectivement les inégalités sont gigantesques. C'est devenu maintenant assez commun, mais j'ai commencé à écrire cela il y a 5 ans. Les inégalités sont très élevées. La mobilité surtout, et c'est ça qui reste encore peu connu, la mobilité sociale est beaucoup moins importante qu'on l'imagine, oui, lorsqu'on dit que l'Amérique est la terre, par définition, d'une mobilité où on peut naître fils d'ouvrier et devenir John Rockefeller. C'est vrai, mais c'est devenu de plus en plus rare.
D'accord. Alors, c'est ce que vous dites à la page 103, une croisade pour la responsabilité personnelle. Le plus grand changement des 30 dernières années en matière de relations salariales, ce n'est pas, malgré l'importance du sujet, qu'il y ait eu une pression sur les salaires, c'est l'altération profonde de la nature même du contrat de travail. Le contrat fordiste était fondé sur un double échange. Il y avait l'organisation du travail, etc. Et ça, c'est ressenti profondément par cette classe moyenne.
Ah ben c'est, je pense, l'un des ressorts. C'est pour ça que je ne me prononçais pas sur l'élection proprement dite, parce que mon métier n'est pas d'être un analyste politique au sens propre. Mais c'est sur des considérations de ce genre, donc puisant dans les aspects les plus profonds de l'évolution de la société, que j'avais abouti à la conclusion que l'Amérique était effectivement prête pour un grand basculement dans ordre de préoccupation, de priorité tout à fait différent. Et la phrase que vous citez résume effectivement la doctrine qui a été à l'œuvre depuis la présidence Reagan, disant, en renvoyant la protection des risques aux individus et de placer, donc, comme on le dit aussi aujourd'hui beaucoup, toute la classe moyenne dans une situation de grande fragilité, d'exposition très directe au risque. Oui.
D'accord. Et d'angoisse, quoi.
Et du coup, d'angoisse, oui. Vous avez raison d'employer ce mot. J'ai fait un colloque il y a assez peu de temps à l'IFRI franco-américain, avec autant de collègues des deux côtés de l'Atlantique. Et un de mes amis américains, très très bon connaisseur de la France, m'a dit, les Européens face à la crise sont angoissés, ce qui est vrai, on le voit, mais les Américains sont terrifiés.
Oui, c'est ça. Donc l'Amérique est placée, on ne va pas trop revenir sur le constat, les auditeurs pourront le découvrir par le menu dans votre remarquable ouvrage, et l'Amérique est aussi donc maintenant placée devant de très importants défis. Des défis que vous rappelez, sauver la planète, c'est déjà pas rien, recréer une industrie compétitive, et au milieu de ces défis, il y a le dollar.
Voilà.
Alors, le dollar roi, le dollar moyen, fin, on ne sait plus très bien. Alors, c'est un problème, c'est devenu définitivement un problème pour l'Amérique, le dollar, où on peut retrouver une forme de soutien
Écoutez, c'est
exorbitant.
vous mettez l'accent, parce qu'il y a effectivement 3 chapitres sur lesquels je tâche de disséquer un peu les défis sociaux, environnementaux et industriels auxquels l'Amérique est confrontée, et qui sont tous des défis gigantesques, assumés complètement dans la campagne par le candidat Barack Obama. Mais en m'invitant à parler du dollar, vous mettez le point sur l'aspect le plus problématique. Parce que les Américains sont, à mon avis, très conscients maintenant des problèmes que rencontre la classe moyenne après les 25 ans de révolution conservatrice. Ils ont énormément changé sur le plan environnemental après les années, disons, symbolisées par le vice-président Cheney, qui faisait preuve de la plus grande hostilité à l'encontre des idées environnementalistes. Et puis, ils sont conscients, à cause des délocalisations, des problèmes de l'emploi industriel, des problèmes des exigences de recherche, développement, etc. Donc tout cela sont des défis très difficiles, mais ils en sont bien conscients. Sur le dollar, c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas encore perçu l'idée que le dollar pouvait avoir un concurrent et qu'il pouvait avoir à subir la pression de l'extérieur. Donc ce chapitre, effectivement, analyse assez en détail ce qui s'est produit depuis plusieurs années. Le dollar a connu des hauts et des bas. Vous indiquiez que j'avais travaillé en cabinet, par exemple, en 2000. C'était un moment où le dollar et l'euro s'échangeaient dans un rapport tel que l'euro achetait 0,88 dollars, donc bien en dessous de 1 dollars. Et je vous rappelle qu'en juillet 2008, 1 euro achetait 1,6 dollars, c'est-à-dire pratiquement le double, ce qui est un changement absolument époustouflant, comme il y en a rarement dans l'histoire. Et au-delà de cette tendance, qui est très très claire, et une tendance de long terme amorcée en 1971, il y a des hauts et des bas. Donc il y a des périodes où le dollar retrouve de la fraîcheur et de la vigueur, sous Reagan par exemple, parce que le monde entier a eu confiance dans ce président formidable, et puis à la fin de la décennie 90 à cause de la nouvelle économie. Donc c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, et il ne faut jamais prendre de pari sur le dollar, même quand on a des idées bien arrêtées, parce que le lendemain peut vous surprendre complètement.
Oui, parce qu'il y a des facteurs rationnels et des facteurs irrationnels. Les facteurs rationnels seraient que le dollar soit corrélé à la valeur fondamentale de l'économie américaine qui est en perte de compétitivité, donc ça a plutôt... Et de l'autre côté, il y a ce que vous dites, des phénomènes de confiance. Ce qui s'est passé avec Reagan peut parfaitement se repasser avec notre ami Obama.
Il faut quand même une base économique et financière plus ferme que simplement une idée de confiance. Vous voyez, oui. Par exemple, au second semestre 2008, donc depuis juillet, j'évoquais qu'en juillet, le dollar avait touché un point bas, très bas. Et depuis, de manière extraordinairement surprenante, il a remonté à l'automne. On en a beaucoup moins entendu parler. Au contraire, on a pu dire que le dollar redevenait assez cher. Mais cela est dû à des aspects très technique des circuits financiers. Et c'est une conséquence un petit peu paradoxale, disons, de la crise qui a obligé à rapatrier des capitaux qui avaient été exportés en Europe ou ailleurs pour profiter de taux d'intérêt temporairement plus élevés. Donc, il y a eu un aller et retour de mouvements de capitaux en 2008. Donc, c'est rationnel a posteriori. On comprend pourquoi ça s'est produit comme ça. Et demain, il peut se reproduire des phénomènes similaires. Mais la tendance reste quand même à la baisse, à la possibilité qu'ont les investisseurs internationaux, et en particulier les Chinois, de placer une partie de leurs réserves dans des monnaies différentes, en particulier l'euro. Et par conséquent, ceci, c'est quelque chose de totalement nouveau pour l'Amérique qui découvre que tout d'un coup, elle définit ses politiques, et y compris le président Obama, elle va devoir définir ses politiques en prenant en compte ce que le reste du monde pense de la valeur future du dollar et de l'intérêt qu'il y a à placer de l'argent en dollars.
Donc l'Amérique n'est plus seule maître du jeu.
Elle n'est plus.
Et c'est extrêmement nouveau pour.
Et c'est totalement nouveau depuis
elle.
L'origine des États-Unis. Parce que pendant tout un temps, elle a été très isolationniste. Au 19e siècle, elle a fondé sa croissance sur elle-même, disons. Et puis ensuite, elle s'est engagée prudemment après la Première Guerre mondiale avec sa force nouvelle. Et elle l'a fait de manière un peu tonitruante après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui est sans précédent dans l'expérience américaine.
Alors, vous dites là, non pas, je fais une toute petite aparté dans votre ouvrage, mais dans un article qui était paru dans les Échos, si mes souvenirs sont bons, en janvier 2009, un remarquable article qui s'intitulait « Trop audacieuse, la relance Obama ». Si j'ai bien compris, vous faites partie de ceux qui sont relativement heureux d'avoir vu arriver Obama.
Vous avez bien lu le livre.
J'ai bien lu le livre.
Oui.
Mais par contre, vous exprimez une crainte. C'est-à-dire que c'est les aspects relance par le budget ou par...
Oui. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, j'ai été très critique sur la façon dont l'administration Bush et le président de la Fed, Alan Greenspan, ont conduit les politiques publiques, politiques budgétaires et monétaires, depuis le début de la décennie. Et je fais comme partie du consensus des économistes qui considèrent que face à la gravité de la situation actuelle, évidemment, il faut être plus audacieux qu'on ne l'est en temps normal et que des déficits importants sont tout à fait d'actualité. Donc il n'y a pas de débat philosophique là-dessus. Mais une fois qu'on... Autrement dit, il n'y a pas de débat, Keynes, Friedman, tout ça, il faut aller dans le déficit, c'est très clair. Mais une fois qu'on a dit cela, on aurait tort, à mon avis, de considérer que l'affaire est pliée parce que les déficits... qu'on aime cela ou pas, il va falloir les financer. Ouais. Et tant qu'on n'a pas franchi un stade dans la voie de la collectivisation beaucoup plus important que celui auquel que ce qui se discute aujourd'hui, eh bien, les financements proviennent de mains privées. Et je voudrais juste rappeler, pour avoir étudié à plusieurs reprises la crise des années 30 et me permettre parfois quelques comparaisons avec cette situation, qu'on dit toujours que les politiques des années 30 ont été maladroites parce que tournées vers la rigueur, la déflation, le contrôle de l'offre de monnaie. Mais l'un des aspects dominants de cette période, c'est le chaos financier, c'est-à-dire la difficulté perpétuelle qu'ont eu entre 1919 et 1939, qu'ont eu tous les États, à l'exception du gouvernement américain et encore, à financer leur déficit. Et c'est une course perpétuelle des États les uns contre les autres pour tâcher de gagner un petit avantage. Donc l'article auquel vous faisiez référence, c'est d'une certaine manière, une nouvelle fois, une tentative pour éclairer un coup en avance, déficit bien sûr, Mais que se passera-t-il si, à un moment donné, les marchés trouvent que les déficits deviennent hors de contrôle et refusent de financer les États? C'est là que, pour les politiques budgétaires, pour les gouvernements, les choses deviendront vraiment difficiles.
Oui. Et là, on trouve toute l'humilité du professeur d'économie qui dit le revirement en cours des idées dominantes en économie est fascinant. Oui. Et vous citez donc la professeure Christina Romer.
Voilà. Et conseillère qui, maintenant de Barack Obama.
Voilà, qui donc a changé radicalement de pied sur ce sujet. Donc il n'y a pas trop de vérité. Enfin, en tout cas, la vérité est en train de prendre plusieurs formes.
Ben ouais, j'observe ça avec beaucoup d'amusement, parce que comme nos auditeurs le sans doute peut-être, bon, je ne suis pas tout à fait un économiste né de la dernière.
Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Donc j'ai commencé à une époque où le keynésianisme était encore assez en vogue. J'ai ensuite écrit avec Robert Boyer un livre qui a eu à l'époque un certain succès, qui initialiser ce que l'on a appelé la théorie de la régulation. Donc, je n'ai pas tellement changé dans une vie professionnelle très variée. Je n'ai pas tellement changé. Et j'ai observé effectivement avec de l'extérieur, puisque j'ai été très souvent en dehors de la vie académique, j'ai observé avec certain amusement le ralliement universel de mes collègues à une espèce de pensée dominante, comme dirait, de pensée unique, comme dirait Jean-Paul Fitoussi, qui ne m'a jamais paru épuiser le champ des questions économiques. Et donc, qu'aujourd'hui la profession soit confrontée à des difficultés existentielles, un petit peu, en renonçant à l'espèce de corpus qui était admirablement bien construit, c'est vrai que c'est un défi qui est lancé à toute la profession aujourd'hui. Et ce que je cite de Madame de Christina Romer, qui était professeure à Berkeley, en est un bon exemple. Il y en a d'autres, oui.
Mais est-ce que vous ne croyez pas que la compréhension et l'interprétation de cette crise est trop grave cette crise est trop profonde et trop sérieuse pour confier son interprétation uniquement aux économistes?
Certainement, oui. Voilà.
est-ce que les apports des autres sciences, on va dire l'histoire, les mathématiques, bien entendu, la philosophie peut-être, sont de nature à... Je vous dis ça parce que le Cercle Turgot va publier fin mars un ouvrage chez Erol qui s'appelle « Regard croisé sur la crise financière » et qui précisément tâche de faire des ponts entre les différentes disciplines qui peuvent peut-être venir au secours des économistes qui sont un petit peu en difficulté. Je dirais même qu'aujourd'hui, un petit peu dans l'œil du cyclone, si on en croit certaines parutions, sur lesquelles d'ailleurs on peut avoir quelques réserves, du style la trahison des économistes ou celle de Declauzet, etc.
Très difficile question. Je vais tâcher d'expliquer ma position en disant qu'elle n'est ni complètement d'un bord ni de l'autre. Vous savez, c'est la célèbre parabole de l'économiste qui a deux mains et only one hand, only other hand. Je veux dire par là que j'ai fait suffisamment d'économie au sens de la discipline dure, à la fois en termes en enseignement et en recherche, dans des endroits où on est assez exigeant sur le plan de la théorie formalisé. Et puis en termes de politique économique, donc quand j'ai enseigné à la fois à l'IX et à l'ENSAE, ça me donnait deux publics qui m'invitaient à la fois à être très strict sur le plan des formalisations et en même temps très au point sur les débats qui viennent du côté de la politique économique. Donc je pense que cette discipline, malgré ce que j'en disais à l'instant et sur l'espèce de convergence peut-être trop rapide dans laquelle elle s'était satisfaite pendant une quinzaine d'années, je pense que c'est une discipline qui apporte à la compréhension des faits que nous observons une contribution extraordinaire. Si on compare ce qui s'écrit aujourd'hui par rapport à ce qui s'écrivait dans les années 30, on voit qu'il y a effectivement une amélioration de nos moyens de connaissance qui est immense. Et donc je ne souhaiterais pas, je ne dirais pas qu'il faut considérer que la discipline en tant que telle est dans l'attente d'être régénérée par des apports qui lui sont extérieurs. Je pense qu'elle apporte énormément et que trop souvent, on peut aboutir à des fausses synthèses parce que finalement, on ne respecte pas assez sa logique propre et l'apport propre qu'elle peut fournir. D'un autre côté, je rejoins tout à fait ce que vous dites et comme cela se sent dans mes propos, j'ai aussi touché à des disciplines autres que l'économie et je n'imagine pas qu'on puisse être un bon professionnel dans ce domaine sans avoir une expérience politique, sans connaître l'entreprise, sans être averti d'un certain nombre de... sans avoir cette confronté à ce que, au défi que soulève l'interprétation historique. J'évoquais les années 30. Donc, c'est vrai que ce sont les disciplines voisines qui sont les plus évidentes, mais certainement, on peut même aller au loin, plus loin, comme vous le disiez, avec la psychologie. Quand on réfléchit à la monnaie, il est bien clair qu'il faut à la fois faire de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie. Oui, oui.
Donc, nous
partageons. Mais je récuse la tentation de synthèse trop rapide. Vous voyez, c'est un peu le résultat de ma double. C'est-à-dire, ces deux voies sont excellentes, mais gardons-nous de croire qu'il est facile de faire la synthèse.
Ok, alors avant de conclure, question-réponse très, très, très rapide. Si vous aviez une seule recommandation à proposer pour reconstruire cet ordre économique et financier mondial qui est en grande difficulté, notamment d'un côté financier et bancaire, ce serait quoi que vous mettriez en premier parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de recommandations, beaucoup de...
Écoutez, la réponse va vous surprendre, je la trouve facile.
Oui.
C'est plus facile que la question précédente.
Le
plus grand danger devant lequel nous nous trouvons, devant lequel se trouve l'économie mondiale en février 2009, c'est la montée du populisme, l'inquiétude des populations, le danger du patriotisme et du nationalisme qui vient immanquablement avec l'accroissement des difficultés et avec le rôle croissant des États. Donc c'est la contre qu'il faut...
Et là, ce n'est pas une réponse économique simplement.
Ce n'est pas une réponse économique. Alors, pour être un peu plus concret, je dirais que nous avons eu vu en fin d'année 2008 une excellente initiative qui a été un peu brocardée, à mon avis, à tort, parce que je pense au G20 réuni à Washington à l'initiative du président Sarkozy et du président Bush. Ça a été un peu brocardé, mais en fait, c'était une initiative qui était extrêmement bienvenue parce que justement, elle crée une situation totalement différente de celle des années 30, dans laquelle c'est l'éclatement des intérêts nationaux qui a immédiatement
le repli sur soi.
Voilà. Donc là, on est sur un... Et c'est d'aller dans cette direction et de développer de nouvelles initiatives dans la suite du G20, que je crois je mettrai en avant.
Je pense qu'on arrive à peu près à avoir fait le tour et en laissant le plaisir à nos auditeurs de découvrir l'intégralité de votre ouvrage, y compris dans sa nouvelle version qui sort en poche. C'est chez Perrin aussi, je ne sais pas.
Perrin aussi, en poche, ça sort ces jours-ci.
Un point quand même, avant de terminer, qui me paraît important et que vous soulignez à plusieurs reprises, c'est le réveil des idéaux démocratiques pourrait être le second grand enjeu des prochains mois. Vous croyez que c'est en route,
ce réveil ? Oui. Ah oui, parce que ça, si vous voulez, ça nous ramène à ce que vous disiez au départ. Hein. Je suis un ami de l'Amérique, c'est-à-dire que vous avez vu tout ce que je pouvais dire de manière critique. Je pourrais être beaucoup plus long. Mais en même temps, c'est un pays qui est fascinant par le fait que les gens sont extraordinairement tonique et que quand on traverse l'Atlantique, on a l'impression de rajeunir. Et cette tendance a été, mise un peu sous le boisseau par les campagnes conservatrices qui ont exploité le sentiment de peur qu'avaient fait naître les attaques des tours. C'était évident, qui était extrêmement compréhensible. Et donc, il y a eu une espèce de chape de plomb et je n'ai pas voulu m'arrêter à cette impression parce que je savais, en connaissant suffisamment d'Américains, que l'intégralité de la vie ne s'arrête pas à ces impressions de peur un peu cultivées sur le terrain politique. Et donc ceci a basculé dans l'enthousiasme de la campagne de Barack Obama parce que les Américains ont voulu justement, d'une certaine manière, surmonter ces peurs et faire preuve à nouveau du sentiment d'unité qui est au fond très profondément enraciné. Et je pense que les initiatives prises par le président élu, comme on disait, puis maintenant par le président, mais enfin là c'est très bref, vont dans le sens de ce réveil de l'idéal démocratique des États-Unis, c'est clair.
Donc, ce que je retiens de ces propos, c'est tout de même un optimisme assez fort dans l'avenir et dans la capacité des Américains de reprendre l'initiative. Et ce qu'on retrouve dans votre ouvrage en conclusion, et je vous cite, « Le monde multipolaire, c'est une image ou une vision. La réalité, c'est que l'Amérique reste la seule hyperpuissance. L'alternative à son leadership, ce n'est pas le concert des nations, ce serait plus probablement le chaos. Après 8 années Bush, ce leadership moral est au plus bas, d'où l'envie chez beaucoup d'Américains de reconnecter leur pays avec le reste du monde, heureusement, car le monde a besoin de l'Amérique. » Donc, cher professeur, une nouvelle fois, vous nous marquez que vous êtes un ami de l'Amérique, un ami exigeant, optimiste et lucide. Merci encore à vous pour avoir accepté de nous rejoindre sur l'antenne de Canal Académie.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous.